c'est contrôlé.
You're listening to the fucking Radio Girol.
Girol Radio Station. Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct, nous sommes en direct, pardon, du centre d'animation Saint-Pierre à Bordeaux. C'est la première émission Girol de l'année et donc on dit tous en chœur
Bonne année.
Donc on s'est reparti pour une heure autour des cultures libres, logiciels libres, jeux vidéo, Linux, liberté d'expression et on a des choses à dire. Au programme ce soir, on va commencer par toute une série de brèves. On va discuter de jeux vidéo sous Linux entre autres et on ne peut pas faire l'impasse sur la liberté d'expression et ce qu'il s'est passé la semaine dernière pour l'équipe de Charlie Hebdo et les conséquences dramatiques que cela risque d'avoir sur notre liberté d'expression. Voilà, voilà. Donc nous sommes avec Gaël. Bonsoir Gaël.
Hello.
Nous sommes avec Mathieu, comme d'habitude.
Bonsoir.
Avec Isa. Bonsoir,
bonsoir.
Isa. Bonsoir. Bonsoir notre ami Antoine.
Bonsoir.
Une petite pensée particulière à notre ami Aïssa qui est venu nous rejoindre avec sa fille Safia. Bonsoir.
Coucou.
Donc voilà. Alors c'est Gaël ce soir qui a fait la majeure partie du programme et on l'en remercie parce que nous sommes tous des gros branleurs comme d'hab et on n'a rien fait sauf Gaël. Et c'est lui donc qui va commencer la petite série de brèves. Alors qu'est-ce que tu as à nous raconter aujourd'hui ?
Alors en petite brève, on avait donc. Alors c'est une info qui date plutôt du mois dernier, mais si vous pouvez aller voir sur. C'est un truc pour les geeks, hein, je précise. Pour nous les libristes encore plus. Pour ceux qui connaissent les solutions de virtualisation, il y a un logiciel qu'on appelle QEMU. Et donc l'équipe en charge du développement de cet outil, on fait un petit calendrier de l'Avent sympathique où chaque jour ils mettaient à disposition une nouvelle machine virtuelle qu'on pouvait juste on lançait directement. Il y avait les instructions, c'était très simple, on les télécharge. C'était l'occasion de tester plein de vieux OS ou des trucs un peu exotiques. Je pense à Plan 9 pour ceux qui connaissent pas, qui est une sorte de descendant d'Unix. Auquel on doit UTF-8 notamment, ou encore certains systèmes de fichiers, des choses comme ça. Il y avait aussi une VM avec Frido, c'est la démo Second Reality que tu dois bien connaître.
Excellent démo, l'une des premières démos PC qui a fait rentrer le PC dans l'ère des démo makers.
Qui est difficile à faire tourner maintenant parce que les processeurs sont trop rapides, ça tournait sur du i486, on est sur du i686 minimum, voire du 64 bits, donc c'est compliqué. Donc il faut émuler les anciennes architectures. Donc voilà, je l'ai fait tourner, c'était assez marrant, c'était impressionnant, quoi, tu te dis, pour l'époque, quand même, les mecs. Du coup, j'ai même revu une vidéo sur YouTube des gars pendant, enfin, une sorte de comment ça s'appelle?
Ils étaient en train de faire du débugage, ils regardaient leurs démos sur un vieil écran CRT, ouais. C'est dans l'univers des démo-makers, cette vidéo est relativement célèbre.
Et voilà, il y a plein de petites démos sympas. Alors, si j'arrive à afficher la page, moi, ou si quelqu'un peut la poster sur IRC, donc pour aller la page du calendrier de l'avant est encore disponible, donc on peut récupérer les VM et tester. Bien entendu, il faut installer QEMU au préalable.
Alors moi, je vais pas m'amuser à faire ça sur le PC de Diff. Mais...
Non, non, mais juste si quelqu'un peut poster le lien, parce que moi j'ai mon pad qui veut pas trop s'afficher là.
J'avais testé la première en fait, Slackware.
Ouais, alors ça, c'était, je l'ai testé aussi. C'est assez marrant de démarrer parce que Slackware étant donc la distribution la plus ancienne, qui est encore en activité donc et. On pouvait débooter sur un Linux 0.99 ou un truc comme ça. Enfin, c'est une version de 92 ou 93, enfin, je sais plus, un truc vraiment ancien. Quand même, ça fait, bon, finalement, les commandes changent pas trop, mais il y a certains dossiers vraiment très importants qu'on connaît maintenant qui n'étaient pas du tout au même endroit. Notamment des choses qui étaient dans ETC qui sont ailleurs, qui sont dans slash bin ou je sais plus où, enfin. Et voilà, après on perd pas trop ses repères au final, hein, mais. Bon, évidemment, il disait ne pas connecter sur le net parce qu'il y a des gros risques de se faire pirater. Quoique, c'est tellement vieux qu'en fait, il y a limite plus trop d'attaques sur ce genre de failles. Il y avait même pas SSH, il y avait du remote SSH, je crois, comme ça.
Telnet, peut-être.
Oui, bah, évidemment, ça, mais c'est tout en clair, quoi. Hein, comme... Voilà, ça c'était. Donc, si vous voulez aller faire un tour là-dessus, ça se passe sur le site de QEMU.
Sinon, il y a l'adresse là, www.qemu-advent-calendar.org.
Et donc, voilà, vous pouvez tester des vieilles VM ou des plus récentes, des choses. Il y a également une version d'Ubuntu spécifique au conteneur.
Ubuntu Core, qui est un mini Ubuntu presque sans rien, avec juste la base avec Docker, qui permet de faire tourner justement des conteneurs.
Pirard dit c'est old, mais oui, mais bon, en décembre, pendant la radio, on n'avait pas pensé à en parler, donc on en parle maintenant.
C'est pas fini.
Enfin, ouais, en plus.
On aurait pu en parler aussi. Mais...
Et c'est surtout encore disponible.
Donc voilà, pour ceux qui veulent, ça coûte rien, c'est dans des VM, ça, on peut casser, on peut tester, on peut. En plus, tout est indiqué pour enfin, dans les fichiers README, etc. Il y a tout ce qu'il faut pour savoir comment les lancer, les petites manips de base. Donc je vous encourage à aller tester ça.
Alors, tu as aussi un autre petit fait divers, mais pas au sens sud-ouest du terme. Peu de marrant, en fait. Une petite anecdote.
Alors, c'était... Oui, donc y a, pour ceux qui connaissent Django, le framework Python pour faire des sites web et applications.
Je connais pas, c'est quoi ?
C'est donc, chaque année, même, je sais pas si c'est pas plusieurs fois dans l'année même, il y a la DjangoCon, donc une conférence pour les spécialistes du framework et l'équipe de développement, j'imagine. Donc ils organisaient ça en Angleterre cette année. Et manque de bol pour eux, ils avaient tout bien préparé, toi, ils avaient les dates, ils avaient commencé à ouvrir les inscriptions. Avec les tickets, etc., ou réserver un peu les hôtels et tout. Et là, il y a One Direction, donc boys band de puceaux prépubères, bref, qui annonce une des deux seules dates en Angleterre. Donc, et du coup, il y a eu raz-de-marée sur les hôtels et la ville va être complètement, va quadrupler de population en l'espace d'un week-end. Et du coup, ça tombait pile sur les mêmes dates. Donc du coup, ils ont été obligés de annuler complètement ces dates-là et décaler juste pour un boys band qui venait dans la ville. Du coup, aussi, bon, sur le site, ils disent on a bien dégoûté. Enfin, je traduis vite fait ce qu'ils ont dit en anglais. Bon, peut-être qu'on en rigolera dans 50 ou 70 ans, mais là, on est bien dégoûté. Donc, on va réfléchir à comment. J'ai lu ça il y a quelques jours ou peut-être même deux semaines. Donc ils disaient qu'ils étaient dégoûtés, mais bon, apparemment ils ont avancé leur date.
Si tu regardes la page, puisque j'avais suivi le lien,
très vite,
et
wifi,
tout à fait en bas, ils disent que finalement ils ont réussi à le placer deux jours avant, un truc comme ça. Donc au final, ils ont juste décalé.
Tout bénéfice pour les hôteliers, quoi. Enfin,
ah bah ça.
et qui sait, il y a peut-être des libristes qui vont aller voir One Direction après. Hein.
Bien sûr.
Double effet qui se coule.
Nous, on n'ira pas. Ils sont pas libres.
Ouais, double effet qui coule, oui, surtout.
Alors,
également dans les autres, pour continuer dans les petites annonces, pour ceux qui connaissent le FOSDEM, c'est une conférence annuelle sur les technologies open source et libres, logiciels. Et ça se passe cette année en Belgique. Et tout récemment, Free Mobile, un opérateur internet pour lequel je ne travaille pas, a décidé récemment d'élargir le roaming à la Belgique.
Ce qui fait que les Français abonnés Free Mobile qui vont aller en Belgique pourront avoir internet et tout sans débourser un centime de plus.
Exactement.
C'est une bonne nouvelle.
C'est toujours une bonne nouvelle.
En espérant que le réseau marche mieux en Belgique qu'en France.
C'est pas dit, hein. Belgacom, je sais pas trop comment ça. Bref, voilà, c'était pour la petite info. J'ai posté le petit lien.
Sinon, je conseille aux gens, effectivement, qui vont au FOSDEM et qui ont envie de se marrer et retrouver l'esprit d'époque, de se connecter avec leurs images virtuelles QEMU du calendrier de l'Avent. Avec leur connexion Free Mobile, ils auront l'impression de retrouver un 56K.
Il est chaud.
Chaud patate.
On avait à peu près ça pour les infos. J'ai pas trop suivi effectivement les nouveautés. Après, on va sortir hardware. On va peut-être y revenir après.
Alors, il y a juste, on pourrait du coup aborder ce dont tu as parlé aussi. C'était le CES à Las Vegas avec plein de technologies.
C'est vrai que l'actualité était un peu perturbée. Non. Les fils RSS étaient légèrement surchargés.
C'est ça, on n'a pas trop fait attention, mais tu as noté quelque chose de pas mal, notamment les ordi sticks de chez Intel. Sur le format du fabuleux Chromecast, un ordinateur complet avec un processeur Intel. Est-ce que tu peux en parler un petit peu?
Alors, j'ai très très vite fait regarder les specs, mais apparemment, c'est quand même un ordinateur complet, comme tu dis. Peut-être pas forcément dans la même veine que les Raspberry et autres petites cartes, on va dire. Ça s'en rapproche, je pense, mais il y a quand même plus de... J'ai l'impression que c'est plus puissant. Je crois qu'il y a mis 2 gigas de RAM. Qu'est-ce que j'ai vu au niveau processeur? Puis bon, vu que c'est Intel, du coup, on se dit qu'ils ont dû toi, ils ont une certaine expertise, on va dire, dans...
Ils ont leurs processeurs Atom qui sont pas mal, et on voit tout de suite qu'on peut faire de ces mini-sticks, de ces petits ordi sticks.
J'ai lu en biais, et j'ai vu qu'il y avait, pour Windows, les spécifications n'étaient pas les mêmes. Quelqu'un peut m'expliquer, moi.
Alors par contre, j'ai pas trop d'infos, il faudrait que j'arrive à afficher la page. J'ai pas trop d'infos sur le prix du produit.
89,
ça reste du coup, si c'est moins de 100 euros, ça reste très abordable pour un ordinateur. Enfin, on peut se faire un bon media center, voire même plus, je pense.
C'est exactement ça.
Et ça font, bah, du coup, c'est, je sais pas si l'intérêt est la portabilité du truc. On a un grand écran, une télé, un port HDMI et on balance. Et...
Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut avec ? Est-ce qu'on peut. On peut installer comme sur les ordi, voilà. OS. Ah, d'accord. Ok.
Voilà, le site Oh My God Ubuntu, www.omgubuntu.co.uk, en fait, parle d'un stick à $89, en fait, de la taille d'un Chromecast. Alors attendez, on vire la pub.
Ça doit être plus gros qu'un Chromecast.
Oui, c'est plus. Et donc, au niveau des specs, donc c'est un Intel quad-core, un Atom Z3735F à 1,33 GHz. Qui est quand même pas mal. 2 gigas de RAM pour Windows et 1 giga de RAM pour Ubuntu. Et pourquoi les Windowsiens seraient mieux équipés, on n'en sait rien. Et de l'HDMI, un port USB 2, un micro USB, et Wi-Fi, Bluetooth, et bien sûr un slot micro SD. Donc effectivement, on peut se faire un bon stick PC de salon directement sur sa télé. Se fabriquer une télé connectée pour pas grand-chose.
Alors par contre, il y a une connexion Wi-Fi du coup ?
Il y a du Wi-Fi, oui.
Parce que ouais, ça serait un peu contraignant quand même de devoir ramener un câble Ethernet.
Et pourquoi il faut acheter la version Windows pour mettre le Ubuntu dessus ?
C'est ça, voilà. C'était un peu ma question tout à l'heure. Je voyais
parce
Windows.
Parce que Intel, je crois qu'est étroitement lié avec la firme de Redmond et du coup.
Ah merde.
Enfin, faut dire qu'ils ont
quand même. Ça vaut le coup. Enfin, vu qu'il y a 32 gigas de stockage, 1 giga de plus de RAM. Ça vaut le coup, rien que gain matériel de mettre un peu plus cher.
Tout dépend, je pense que tout dépend de l'utilisation. Ouais. Tu veux mettre un Kodi Xbox Media Center sur ta télé,
un Raspberry Pi suffit. Donc.
Ça manque cruellement de patates quand même. Donc,
ouais, c'est bon, peut-être pour la HD. Ouais.
Voilà, alors la version Windows avec 32 gigas de stockage flash et 2 gigas de RAM sera vendue, elle, $149. Donc c'est un peu plus cher.
Il faut attendre que le cours du dollar baisse pour nous.
Il faut attendre que l'euro remonte. Ah merde.
Alors, je vous propose une petite pause musicale et ensuite on parlera d'autres éléments qui ont été présentés notamment au CES à Las Vegas, à savoir les télés sous Firefox OS. Et Gaël, tu nous parleras toi encore de ton expérience puisque tu as un téléphone Firefox OS.
Exactement.
Alors, je vous propose Protestant Carillon. De l'album In the Name, c'était notre ami Mathieu qui nous avait proposé ça. Ça va faire mal aux oreilles. À tout à l'heure sur Radio Giro.
We'll be right back. t'écoutes Radio Girol.
www.girol.org.
Et vous êtes de retour sur Radio Girol. Alors, on va discuter cette fois-ci de Firefox OS. Ça a été il y a eu des choses encore au CES toujours de présenter, notamment des télévisions connectées qui utilisaient Firefox OS. Je ne sais même plus quel fabricant. Je ne sais pas si tu sais, toi, Gaël.
Non, on va rechercher un peu hein, dans un moteur de recherche. Mais
voilà.
J'ai lu ça vite fait, vraiment dans les titres des articles.
Alors,
apparemment, c'était quand même un des gros trucs qui s'est passé à OCS, et il y a eu pas mal de ces histoires de TV, effectivement. J'ai l'impression que ça va être un peu le, s'ils veulent réussir à regarder les gens devant la télé, il va falloir qu'ils ramènent, en fait, les fonctionnalités dessus, quoi. C'est un peu ce dont vers lequel on tend, bientôt, dans les prochaines années, j'ai l'impression.
Alors, on va juste rappeler pour nos auditeurs, qu'est-ce que Firefox OS? Alors, est-ce que Mathieu, tu peux répondre à cette question? Qu'est-ce que Firefox OS?
En fait, c'est juste un navigateur.
C'est pour faire marcher du JavaScript.
Du HTML5 et du CSS3.
Bah ça, c'est pour la mise en forme.
Ouais. Ouais.
Alors, Firefox est un système donc d'exploitation mobile basé sous un noyau Linux et les technologies Mozilla. Mozilla qui développe le navigateur web Firefox et aussi le client mail Thunderbird, et tout ça appliqué dans un téléphone. Un système qui se veut plus respectueux des libertés et de la vie privée surtout. Voilà.
Oui, alors ça là-dessus, oui, on en reparlera, mais il y a effectivement dans les options, on peut assez facilement définir qui me piste, qui me piste pas. Par application, par...
NSA.
Tout ça. Alors justement, c'est toi qui vas nous parler un peu.
Alors oui, parce que j'ai commandé au Père Noël un petit ZTE. Au niveau matériel, etc., c'est un peu retourné en arrière parce que j'avais un Sony Xperia SP qui se défendait pas mal au niveau technologique. Mais voilà, j'en avais En tant que libriste et puis pour découvrir en tant que bidouilleur aussi, je voulais voir un peu ce qui se faisait de ce côté-là, parce que c'est, sachant que, on peut le trouver assez facilement sur eBay, mais je crois que c'est pas forcément la version française. Et du coup, pour les ROM, les builds communautaires à installer, c'est plus embêtant, faut les compiler, alors que là, la version française, on les a directement. Il y a Mozilla FR ou je sais plus quoi qui les distribue, on met la zip sur sa carte SD, on fait. Faut juste router le téléphone chez ZTE, mais c'est vraiment d'une simplicité. J'ai déjà vu des téléphones, enfin pour Android et Cyanogen, etc. Je m'étais bien plus embêté. Là, c'est vraiment très très simple. Pour router le téléphone, faut Windows. Ça, c'est un peu embêtant.
Ah. Bon. Même pas avec un ADB, on peut pas le faire sous Linux.
C'est possible, je crois. Mais ça c'est pour installer la mise à jour, mais pour le router, t'es obligé de passer par le logiciel ZTE.
C'est un mytho.
Bon, enfin, voilà. Une fois que c'est fait, après on est tranquille. Hein. C'est vraiment très simple ensuite à installer les nouvelles versions. Parce que la version d'origine, donc 1.3, c'est vrai qu'elle commence à être un peu vieillotte. C'était un peu les débuts, je trouvais. Bon,
c'est surtout qu'elle manque cruellement de fonctionnalités.
Voilà, là, on commence à arriver à des choses pas mal. Et je pense que dans le futur, ça va évoluer vraiment très vite. Il y a pas mal de bonnes fonctionnalités qui vont arriver. D'autant que la base d'utilisateurs commence à bien grossir, parce que c'est un appareil qui a un OS qui a été distribué dans les pays en développement, on va dire.
Brésil, notamment, en Amérique du Sud.
Principalement Brésil, l'Espagne, quand même, qui est pas non plus, ils ont connu la crise un peu de plein fouet, mais du coup, on trouve pas mal de, on le voit bien aussi sur le marketplace, parce que les commentaires des utilisateurs sont souvent en espagnol ou en brésilien. Il y a un peu de, il y a en Inde aussi, en Inde, c'est très très bien vendu, apparemment, ça. Du coup, il y a aussi une communauté de développeurs là-bas. Bon, après, c'est des applis spécifiques aux utilisations qu'ils ont là-bas. Ça peut être pour plein de choses, la météo locale, le bus, mais il y a quand même, du coup, ça va se développer assez vite, j'ai l'impression, et j'ai commencé à regarder du côté du kit de développement, on va dire, pour ça reste faut avoir des bases en HTML et CSS, et après on y va, quoi.
Plus concrètement, toi, dans l'utilisation que tu fais de ton smartphone chaque jour, est-ce que tu as trouvé toutes les applications qui te permettaient d'utiliser ton, comme pour ton ancien téléphone, en fait?
Bah alors déjà, moi, j'avais commencé un peu à adopter des réflexes qui me servent déjà maintenant sur Firefox OS, à savoir que toutes les applis d'information, etc., je les avais désinstallées d'Android, parce qu'au final, je préférais les sites mobiles, parce qu'ils sont souvent aussi fonctionnels, voire plus, et ça sert à rien d'installer plein d'applis pour finalement accéder au site mobile. Et ce Firefox OS, ils ont très bien compris, parce qu'on va sur un site, on fait ajouter à l'écran d'accueil, et ça devient un raccourci comme une appli, en fait. Là, il n'y a pas de frontière vraiment entre l'appli et le site, c'est complètement transparent.
D'où l'intérêt d'avoir un navigateur, un système basé sur un navigateur. Voilà.
Après, et donc, une application peut faire du push.
Oui.
Alors qu'un site internet ne peut pas faire du
push. Oui, alors après, voilà. Il y a des applications plus. Enfin, j'ai eu un peu de mal à distinguer justement la différence entre application et raccourci d'un site. Mais il y a quand même des applications qui, bon, en fait, utilisent les parties du navigateur pour afficher, mais qui ont aussi des fonctionnalités derrière de. Voilà, par exemple, l'agenda qui est intégré d'office dans. Il va synchroniser régulièrement avec. On peut définir les fréquences de synchronisation. Donc voilà, ça il le fait tout seul. Il y a certaines applications qui font faire du type. Il y a une qui se permet de un truc qui s'appelle Telegram qui est utilisé apparemment. Voilà, c'est du chat sécurisé qui fonctionne par contact, enfin numéro de téléphone du coup. Donc pas besoin d'aller ajouter ses contacts Facebook machin. Il suffit juste d'avoir les numéros de téléphone dans le répertoire et ça trouve les personnes. Je suis bloqué un peu avec l'appli courriel de base et j'en ai pas trouvé d'équivalente quelqu'un qui en a développé parce que apparemment c'est peut-être un peu plus complexe.
Pas Thunderbird.
Non. non.
Mais Mozilla aime pas trop Thunderbird.
Et du coup l'appli courriel on peut pas avoir du SSL non chiffré. Enfin non vérifié pardon.
Oui, c'est vrai que tu peux pas installer ton propre serveur.
J'ai pas réussi à ajouter mon adresse Girol du coup. Ça fonctionnait très bien avec mon adresse Gmail dont j'essaie de me débarrasser désespérément, tu vois. Je change au fur et à mesure mais.
Alors, il y a des d'après ce que j'ai entendu dire, ça sera corrigé dans la version 2.2.
Oui, mais bon, comme là voilà, j'ai hésité longuement aussi entre la version 2.2 et 2.1. 2.1 est quand même plus stable et de ce que je disais, la 2.2 c'est si on veut. Si on n'a pas peur d'avoir quelques petits bugs de temps en temps, etc.
Il y a certains bugs qui font que, notamment, tu ne peux pas passer d'une appli à une autre, tu ne peux pas revenir au menu d'accueil suivant.
Enfin, ça peut être embêtant. Donc
ça peut être carrément inutilisable même.
Donc je préfère attendre un petit peu et d'ici peu, j'aurai le. Voilà, pour Girol, bon, j'ai mis le lien vers le webmail. Il y a une version mobile qui est un peu moins pratique que la version desktop, certes, mais qui fonctionne quand même pas mal. Ça me suffit pour le moment.
Alors. On parlait justement de ton utilisation au quotidien. Maintenant, qu'est-ce qu'il te manque?
Alors, ce qui me manque cruellement, bah moi, j'ai un abonnement chez Spotify. Bah là, c'est cuit. Voilà, y a rien que je puisse faire pour utiliser Spotify pour le moment dessus.
Il y a rien qui est prévu du côté de Spotify.
Alors, j'ai un peu lu sur les. J'ai lu sur les forums. Il y a des demandes auprès de Spotify qui ont été faites par les utilisateurs pour que ça. Une appli qui soit faite. Je pense que Spotify ils sont pas les plus lents, on va dire, en termes de développement. Ils ont déjà, il y a une version Linux. Ils font quand même des efforts dans ce sens-là. Donc, je pense que d'ici peu, on devrait avoir une appli dans quelques temps. Mais parce que je sais que ils ont, par exemple, ils ont une appli dans le navigateur web qui peut pas fonctionner parce que je crois que c'est du Flash déjà et même ils détectent que c'est en mobile et en version mobile et du coup, ils veulent même pas lancer le.
Est-ce que tu as quelque chose pour envoyer les musiques que tu écoutes sur Last.fm?
Non plus, ça aussi, c'est le grand truc qui me manque. C'est un scrobbler, ouais.
Est-ce que tu as un IRC?
J'ai pas cherché ça. Parce que j'ai IRC sur le téléphone, même sur Android déjà, j'utilisais très rarement, voire pas du tout.
Oui, rarement. Est-ce que tu as un terminal SSH?
Non plus. J'ai pas cherché de ce côté-là. Je suis vraiment resté dans la partie utilisateur basique. J'ai un lecteur de fil RSS qui marche plutôt pas mal. J'ai trouvé un truc pour mes podcasts aussi qui m'écoute. J'ai trouvé le podcast le seul unique que je recherche à chaque fois. Et j'ai trouvé ça. Il manque encore quelques fonctionnalités, je dirais, dessus, mais après, sinon ça va. L'appli musique pour lire la musique qu'on aurait sur la carte SD, elle est vraiment très, très belle, très bien foutue.
Ah ouais, mais elle lit pas le FLAC.
Ah, j'ai crois. Pas encore testé ça.
Oh. Oh. Non.
Si.
Une question très importante, c'est est-ce que, parce que normalement c'est quelque chose qui tourne sur tous les appareils qui ont un écran, on va dire, est-ce que tu peux faire tourner Doom dessus?
J'ai pas testé non plus, mais peut-être avec dans la version d'Open Web Archive là, ou.
Ah, tu veux dire un slideshow de Doom?
Oh, c'est pas que ça rame, non, ils sont un peu limités en bande passante, c'est tout.
Non, c'est pas un problème de bande passante, c'est un problème de JavaScript.
Ouais. Non, qu'est-ce qu'il y a de. Voilà, je peux pas envoyer de photos sur Instagram. La mort, je pourrais plus envoyer ma bouffe du midi. Non, je peux consulter le site, certes, mais je peux pas envoyer du coup. Mais bon, je crois que de toute façon, ça va aller pour le moment. C'est le truc qui me manque un peu aussi, c'est une vraie application de navigation GPS. Autant les applications d'affichage de cartes, c'est localisé avec le GPS, ça marche très bien. Mais naviguer, c'est-à-dire suivre un itinéraire avec le GPS. Il n'y a rien qui le fait réellement.
Il y a pourtant.
Il y a des projets, j'avais vu, mais il Il y a le Nokia Air Map, c'est pas mal. Je trouve que ça et ce qui m'a aussi beaucoup surpris, parce que j'avais des problèmes on va dire de lenteur de réseau globalement sur Android, et j'ai connu avec le Nexus S comme avec le Sony. Et là, franchement, tout s'affiche relativement vite, alors que je suis qu'en 3G. J'ai perdu la 4G du coup, mais finalement, j'y gagne parce que ça s'affiche relativement bien. J'ai moins de problèmes à ce niveau-là.
Alors, je vais poser la question qui me fâche, parce que moi, c'est ce qui m'empêche de passer sous Firefox OS, parce que j'ai aussi très peu de besoins au niveau de mon smartphone, et l'utilisation que tu expliques me conviendrait très bien aussi. C'est comment tu synchronises tes contacts ?
Alors, je les ai importés une première fois. Et pour le moment, c'est comme ça. J'ai pas trop regardé pour la suite. Tiens, d'ailleurs, on peut essayer de faire une recherche sur le marketplace.
Parce qu'il n'y a pas de synchronisation CardAV, donc exit les contacts stockés sur OnCloud, sur Radical ou Davical ou un autre ou tout autre logiciel de collaboration. Parce que c'est ce qui m'avait quand même moins surpris pour Firefox OS, c'est que dès que tu l'ouvres, tu peux importer tes contacts Facebook, tu peux importer tes contacts Google. Mais tu ne peux pas synchroniser tes propres contacts. Enfin, tu peux les synchroniser avec Facebook, avec Google, mais pas avec ton propre serveur. C'est un peu dommage.
Par contre, ce que tu peux faire, c'est développer l'application qui le fait.
Je ne suis pas développeur.
Tu disais que genre, c'était un téléphone qui respectait les libertés des utilisateurs. Les libertés des utilisateurs, c'est ça, c'est de développer les trucs qui manquent.
Ouais, mais du coup, c'est un peu dommage que se positionner en tant que défenseur des libertés des utilisateurs et ne pas. C'est une fonctionnalité maintenant cruciale.
Ah, mais il y a une application de téléphone ou faut attendre que quelqu'un la développe ?
Est-ce qu'on peut téléphoner ?
Non, mais
oui,
allô,
très bien,
quoi.
Ça marche. Enfin, le petit truc qui me manque, que moi, enfin, que j'utilisais beaucoup sur Android, c'était la fonction de glisser pour écrire. Sur le clavier.
Ah, le
ouais. Le Swift, mais pas. Enfin, moi, j'utilise celui interne au téléphone qui fonctionnait très très bien, auquel on pouvait ajouter des mots, qui finalement s'habituait à la manière d'écrire. Et là, je me retrouve à utiliser mes deux pouces, alors avant que j'en utilisais qu'un seul. C'est bon, c'est une question d'habitude.
C'est sportif.
Oui, voilà. Non, mais je suis obligé de sortir l'autre main de la poche. C'est super bien.
Est-ce que tu peux changer le clavier
De langue ?
Non, l'application clavier.
L'application clavier, j'ai pas cherché. Je sais que tu peux choisir, ajouter des langues et switcher assez rapidement entre les deux. Il y en a qui ont reproché aussi le fait que l'affichage du clavier, les lettres sont toujours affichées en majuscules.
Comme sur iOS.
Ouais. Bon, on s'y fait aussi. On voit quand la touche majuscule est allumée ou pas. Donc, c'est pas très dérangeant.
Donc, a priori, tu peux pas changer l'application clavier.
Pas pour le moment, mais je sais pas si... Après, les sources sont disponibles, hein, de Firefox OS, donc...
Oui,
pour qui se sent de...
Le système est quand même relativement jeune. Il a été annoncé il y a un an et demi, deux ans.
Je pense qu'il va évoluer quand même assez vite, parce que même il a déjà pas mal évolué entre la version 1.3 et la version 2. Il y a quand même des... Enfin, ça a énormément évolué, donc je pense que d'ici quelques versions, on va vraiment atteindre quelque chose qui sera... Puis, comme d'habitude, hein, plus la base d'utilisateurs augmente, et plus le nombre de développeurs potentiels augmente aussi. Et du coup, on peut arriver à quelque chose de vraiment sympa et qui égale les autres systèmes. Et de toute façon, là, on sait tous, hein, il est important qu'il y ait une certaine pluralité dans les systèmes et pas juste une sorte d'oligarchie de Android versus iPhone. Bon, Windows Phone, voilà. Non, mais c'est vrai que je vois souvent, quand je cherche sur certains sites leurs applis mobiles, alors, ils sortent même des OS, genre Symbian OS, des trucs qu'ils utilisent encore, je sais pas. Et par contre, on retrouve pas encore Firefox OS, parce que je pense qu'ils estiment que le marché est pas encore assez intéressant. Mais sachant quand même que si c'est en Inde, ça c'est, enfin, je pense qu'il faudrait pas négliger ce marché-là, parce qu'il y a quand même une base d'utilisateurs qui va être assez conséquente.
Comme tu le disais tout à l'heure, le plus impressionnant, c'est que quand on navigue sur le marché d'applications de Firefox OS, il y a beaucoup d'applications et de commentaires. Effectivement, en espagnol, c'est un système qui s'est très très bien développé en Amérique du Sud. Et effectivement, beaucoup de services sud-américains ont leur appli Firefox OS. Parce que c'est là-bas qu'il a été vendu en premier.
Donc, moi je dis c'est une affaire à suivre. Le téléphone, au niveau téléphonie, message, etc., fonctionne très très bien. C'est fluide et réactif, ça nous change vraiment. C'est aussi un petit côté nouveauté qui est vraiment intéressant. Et, Et ouais, le petit bémol, comme on disait en off tout à l'heure, c'était la partie appareil photo aussi. Alors c'est le côté matériel.
C'est lié à l'appareil, oui. Pas de flash. Parce que
l'appareil photo en lui-même est assez marrant. Il fait des petits trucs, des petites fonctionnalités. Il y a des filtres déjà intégrés dans. Enfin, c'est assez drôle.
Bon, je propose de faire une petite pause musicale et ensuite on parlera de liberté d'expression.
Allez.
The very mention of the name brings to mind things so evil, so fantastic, so degrading. You wonder if it isn't all a dream, a nightmare.
Girol vous donne le micro au 05 81 31 43 31.
Girol, la radio.
Et comme le dit notre ami Antoine en jingle, n'hésitez pas à nous appeler. Alors, on va parler cette fois-ci de liberté d'expression. Vous savez de forcément de quoi on va parler, parce que qui n'a pas entendu parler de...
Qui
de
était ce... dans une grotte. Voilà. Sortez.
De cet odieux attentat qui a été perpétré à l'encontre de la rédaction de Charlie Hebdo, de tous ces morts, non seulement des gens connus, des dessinateurs connus de l'hebdomadaire Charlie Hebdo, mais aussi de tous ces gens beaucoup moins connus qui ne faisaient que leur travail. Déjà, je pense qu'on peut tous leur faire un vibrant hommage. Voilà, parce qu'ils étaient de, au final, les victimes étaient de toute confession, de toute origine, de tout âge. Voilà, effectivement, on ne peut que condamner. Et Tarek Koubrou, l'imam de la mosquée de Bordeaux, l'a fait très très bien. On a la chance de vivre à Bordeaux et d'avoir une personne de cette intelligence qui a dit des choses très vraies, notamment en gros qu'il fallait répondre aux caricatures par d'autres caricatures. Je trouvais ça très très bien, et le message qui passe derrière. Mais il y a plusieurs choses quand même qui dérangent. Je suppose que vous avez tous été peut-être ici au grand rassemblement à Bordeaux qui a réuni 140 000 personnes.
Non.
Alors moi, je n'y ai pas été non plus.
J'étais la veille, enfin non, l'avant-veille, enfin, le jour même en fait.
Oui, parce que... Moi, j'ai bossé trop tard ce jour.
Voilà.
Moi, j'ai hésité. D'ailleurs, j'en ai fait part sur IRC parce que d'une certaine manière... sur le jour même, je suis pas allé tout ça. Et je voulais, pour Charlie Hebdo, pour ce que ça représente pour moi, qui était élevé, entouré par des harakiris, des canards enchaînés, ce genre de trucs. Ça me paraissait naturel, normal, évident. Et puis j'ai été vraiment très très choquée par ce qui s'est passé et voilà, j'avais envie quoi de, mais très vite je suis ça Charlie partout, alors sur le moment j'ai trouvé ça très bien, puis après il y en avait partout
après,
tout
voilà,
le temps,
même sur le site d'Apple, et Apple censure,
voilà, tous ceux qui ont manifesté, notamment à Paris, les chefs d'État, et je t'en passe, c'est les meilleurs, ceux qui sont les responsables de la répression. Et il y a eu un article de Reflet que tu as republié, Yorick, sur Google+, qui est très bien, parce qu'il disait en fait c'était le résumé du bal des hypocrites, quoi.
Oui.
C'est ce qui m'a dérangé dans ce rassemblement, c'est voilà.
Et justement, dans le rassemblement, enfin je tiens à préciser quand même, à Bordeaux, pour y avoir été, c'était, alors peut-être à Paris c'était peut-être un peu plus, mais à Bordeaux, enfin j'ai pas vu la tête de c'était plutôt sur la fin, moi, de la marche. De toute façon, la marche, elle était dans tous les sens. Hein. Mmh. Il y avait un chemin prévu à la base, mais les gens sont pas sortis dans tous les sens. Ils ont terminé à Péberlan, je crois, à peu près. Moi, je suis allé jusqu'au Parvis des Droits de l'Homme, et après, je suis rentré. En étant en fin de cortège, je n'ai vu qu'une seule toute petite affichette de quelqu'un qui avait mis, CGT dans un coin. Je sais pas pourquoi, j'ai trouvé ça bête, lamentable. Mais bon. Mmh. C'est inutile, disons, mais... j'ai pas vu de récupération politique. Moi, j'en ai pas vu, en tout cas, à Bordeaux.
Alors moi, je comprends que ça a ému la population. Ça a ému la population. Ah. Voilà, c'était au passé. Et que tous les gens, ça a créé un élan national. Ok, mais quand on dit je suis Charlie, il faut savoir vraiment d'où on parle,
exactement,
à un moment donné.
C'est pas tout le monde peut
voilà.
pas dire.
Et ceux qui l'ont dit à ce moment-là. Certains qui l'ont dit à ce moment-là et qui continuent à le dire sont les mêmes qui les ont pas soutenus.
C'est
et
que
autres.
Il y a par exemple, à côté de notre cher président normal, il y avait le président du Mali qui n'y va pas de main morte pour censurer les journalistes. Il y avait un représentant de la Russie qui n'y va pas non plus de main morte pour censurer les journalistes. Il y avait les rois et la reine de Jordanie qui y vont encore moins de main morte.
Oui,
les meilleurs clients de Bull, voilà.
Si tu reprends l'article, je ne sais pas si tu peux afficher sur l'écran l'article de Reflet dont tu parlais. Et ils font référence aussi au soutien à la presse indépendante. Et c'est assez anecdotique. Mais...
Nos ministres qui préfèrent effectivement subventionner Télé 7 jours et Télé Loisirs que le monde diplomatique.
C'est un peu ce qui se passe dans les droits d'auteur en général. Hein, c'est-à-dire que c'est les plus gros c'est ceux qui font le plus d'argent qui vont récolter le plus de subventions. Et donc, c'est Closer et ce genre de gens qui vont récolter le plus de thunes. Et le monde diplomatique, même le monde diplomatique doit s'asseoir dessus.
Ouais, c'est un peu...
Donc,
Pas Charlie du tout, ça.
Non, c'est carrément pas Charlie.
Non, c'est carrément pas Charlie du tout, quoi. Et puis maintenant, au nom de Charlie, alors moi, c'est ça qui me rend le plus dingue, le plus en colère et désespéré. C'est que de voir qu'au nom de la défense de la liberté d'expression d'un journal comme Charlie Hebdo, on met en place des lois, on va mettre en place un arsenal sécuritaire encore plus gros.
Alors qu'en
comme
réalité,
si ça allait servir à quelque chose.
Non, alors qu'en réalité, les moyens légaux pour empêcher ça, ils existaient déjà.
Oui, puis ils existaient. Et en plus de ça, ils n'ont pas servi à grand-chose.
Bah, ils ont été mal utilisés.
Alors voilà. Il s'avère que les premiers éléments que l'on peut voir, qui sont connus du public, c'est que les deux frères qui ont fomenté cet attentat avec leurs complices se sont tous rencontrés en prison. Et que c'est en prison qu'ils se sont radicalisés.
Et donc, nos élus se sont dit... Mais, puisque c'est en prison, allons fermer les frontières.
Et
bien sûr.
Mais ils sont français.
Mais du coup, c'est la faute à Internet. Parce que
Faute à Internet, Valls. Parce qu'ils ont écouté des mecs qui leur ont bourré le mou via Internet. Alors qu'en fait, non, c'était un imam autoproclamé en France qui les a embrigadés, qui en plus maintenant dit « Ah non, moi, je leur ai dit la religion, c'est eux qui ont dit « je vais combattre ». C'est fabuleux, quoi, ce qui se passe en ce moment.
C'est
énorme.
C'est énorme. On a d'un côté des gens qui se disent protéger la liberté de d'expression et du coup qui en fait non font tout à fait l'inverse, notamment à l'image d'un Claude Guéant qui nous dit que il faut bien sacrifier quelques libertés pour pouvoir gagner de la sécurité.
Oui, bien sûr, mais oui, tellement bien entendu. Voilà.
C'était, je sais plus ce qu'il a dit Benjamin Franklin là-dessus.
Oui.
Celui qui veut perdre la liberté pour plus de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre.
Voilà. C'est ça. Mais... Ça avait déjà été inversé par Obama, je crois, cette expression, il me semble. Enfin bon.
Il est aussi à noter que on fait aussi des émules outre-Manche puisque David Cameron annonce publiquement qu'il veut renforcer justement l'appareil législatif pour pouvoir contrôler un peu plus ses citoyens.
Déjà que Internet en Angleterre c'était pas très drôle hein, pour celui qui aime bien regarder un petit porno de temps en temps. Hein, je veux dire c'est compliqué quoi. T'as pas de VPN.
Là il dit carrément que l'ennemi ce sont tous les espaces où les gens peuvent garder des documents en sûreté pour eux et sur lesquels le gouvernement n'a aucun contrôle. Et il veut.
C'est nous.
Il veut.
C'est nous.
Un backdoor sur tous les services qui permet de
les
chiffrer.
Les crypto-anarchistes. Des rétro, quoi.
Donc, et il a dit que si, parce qu'il y a des élections qui vont être menées cette année en Angleterre, et que s'il était réélu premier, l'équivalent du premier ministre ici, il mettrait ça en place, ce qui quand même fait peur. C'est-à-dire que on se sert de l'argument du terrorisme pour nous dire.
Et oui, on devrait tous ne rien avoir à cacher, hein. Le fameux argument qui tue. Toute discussion.
De vacances.
Voilà.
Vu que ça va être interdit en Angleterre, les terroristes ne vont pas pouvoir utiliser les moyens de chiffrement, vu que ce sera interdit par le gouvernement.
C'est ça, en Angleterre.
Ils ne vont pas du tout l'utiliser.
Non, parce qu'ils n'ont pas de serveurs en Ukraine, en Russie, ou
en Corée du Nord.
Ils respectent la loi, surtout.
C'est ça.
C'est bien connu.
Mon Dieu.
Donc, c'est génial. Alors. On a aussi un gros problème en France, c'est que dès qu'il y a un événement très perturbant, et celui-ci fait partie sûrement des événements les plus perturbants de ces dernières décennies, il faut absolument réagir par une loi. Il faut une loi. On a voulu mettre des lois après.
Il faut remettre en question de suite la législation.
Voilà.
L'exécution qu'il y en a eu de celle existante.
C'est ça. Et notre Premier ministre a officiellement demandé à son ministre de l'Intérieur, Monsieur Cazeneuve, de réfléchir sous 8 jours à une loi restreignant effectivement les libertés sur Internet. Notre ministre Fleur Pellerin essaye de faire en sorte... de faire en sorte que les intermédiaires techniques soient de plus en plus responsables du contenu posté par des gens sur lesquels ils n'ont aucun contrôle. Donc, en transformer nos FAI en véritable police du net. Donc, au final, on a tout un arsenal législatif qui est en train de se mettre en place le plus rapidement possible parce qu'il faut effectivement.
Ben voilà, lois d'exception. Mais pourquoi ne pas carrément nous foutre l'état d'urgence sur la tronche et qu'on n'en parle plus, quoi?
Oui, le couvre-feu, la fouille au hasard.
Voilà, c'est ça, qu'on arrête.
Le toucher physique, quand tu veux, enfin bon.
Bref. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc voilà, alors moi, je trouve ça très bien, tous les gens qui sont sortis dans la rue, je suis Charlie, etc. Mais là, à un moment donné, t'as envie de leur dire, bon, mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour votre propre liberté d'expression, votre propre liberté alors, tout court, quoi.
Il faut quand même.
Parce qu'il parle aussi de contrôler, de donner des listes des gens qui vont à l'étranger, les compagnies aériennes, etc., etc. Il y a plein de choses qui sont en jeu.
J'ai un très bon article de Next Impact. Vous savez que chez Girol, on aime beaucoup Next Impact.
Bah, c'est bordelais.
Voilà.
C'est on n'en est pas chauvin.
Non, pas du tout. C'est l'activation du Passenger Name Record, effectivement, des listes de passagers que les États vont se passer les uns aux autres au sein de la communauté européenne pour savoir qui va où, comment et pourquoi. Il faut savoir que certains, comme Valérie Pécresse, on salue son intelligence, notamment sur les réformes qu'elle a fait au sein des universités.
Hein. C'est une ironie, hein. Voilà. Pour le préciser quand même.
Mais je pense que nos auditeurs ont tout à fait compris. Qui proposait effectivement carrément un Patriot Act à la française. Alors, qu'est-ce que c'est que le Patriot Act? Parce qu'il faut un petit peu se renseigner. C'est toute une série de lois qui ont été passées après les attentats du 11 septembre aux États-Unis, qui donnent beaucoup plus de contrôle à tous les organismes gouvernementaux, type NSA, FBI, CIA et compagnie. C'est aussi les lois qui ont permis aux États-Unis d'ouvrir
Guantanamo,
donc des lieux où sont
pratiquer la torture,
sont séquestrés effectivement des prisonniers. Dire,
alors que la torture, il s'est prouvé, ça n'a jamais permis d'obtenir plus d'informations que ce qu'on pouvait déjà obtenir par renseignement ou par
c'est surtout que
en demandant tout simplement
peut-on
sans torturer.
C'est surtout que peut-on se définir comme une démocratie si l'on emprisonne, on torture sans motif, sans véritable inculpation, parce que c'est ça que permet aussi le Patriot Act, d'enfermer des gens sans qu'ils soient inculpés. Alors oui,
la présomption d'innocence disparaît.
Voilà. Oui, il faut effectivement enfermer les terroristes. Oui, il faut les condamner. Mais non, il ne faut pas le faire n'importe comment. Parce que sinon, on n'appelle plus ça une démocratie. Et donc, du coup, on peut se poser légitimement la question, est-ce que les États-Unis sont encore une démocratie à cause de ce Patriot Act, qui est un ensemble de lois d'à peu près 300 pages qui a été adopté à la va-vite, qui devait ne durer que 4 ans, en 2001, et qui sont toujours là. Donc, c'est ça qui nous attend. Et malheureusement... c'est pas
oui,
joli, joli.
Oui, entre autres propositions, nous avons bien entendu la fameuse proposition de Marine Le Pen, mais qui doit, je pense, être partagée par beaucoup de gens, le rétablissement de la peine de mort. C'est tellement utile.
Mais c'est surtout que l'on, non seulement c'est ça a aussi prouvé que c'est pas utile, mais en plus, combien aux États-Unis,
oui,
par exemple,
États-Unis,
combien d'innocents ont été tués, massacrés, voilà. Et au final...
C'est magnifique. C'est magnifique. On a des réactions qui sont... ça sert d'alibi, en fin de compte. Et quand tu vois que c'est, en plus... ce qui est arrivé à Charlie Hebdo, quoi, c'est pas possible, quoi. C'est encore plus énorme. Et...
Du coup, je pense qu'il est important de retenir, c'est qu'il faut... Faut bien se renseigner et pas juste écouter les chaînes d'information, notamment les celles de la TNT diffusant en continu qui sont vraiment pas.
Non, mais c'est ça. Il y a un truc qui est assez drôle parce que j'ai quand même regardé. Ça faisait un moment que je regardais plus la télé. Puis mercredi, je sais pas pourquoi. Mercredi, je me suis dit tiens, je vais regarder les infos et je suis tombée sur l'attentat en direct. Quoi. Ouais. Et après, j'ai regardé quand même. Et ce qu'il y a quand même d'étonnant, c'est que il y a eu plein d'invités sur les plateaux, etc. Et il y a quand même des gens sur les plateaux qui sont soit des musulmans, soit des juifs, hein, parce que les deux communautés ont été impliquées, qui disaient qu'il faudrait quand même dans nos communautés qu'on se présente d'abord comme des citoyens français avant de se positionner comme une communauté. Il faut justement éviter le communautarisme. Et ces gens-là, ils parlaient, ils disaient ça. Je me dis ah ouais, enfin des gens qui disent quelque chose, enfin qui disait non, il faut pas de loi sécuritaire, ça sert à rien. Et ben voilà, ils étaient pas repris. Tout de suite, les journalistes passaient ah mais à l'écran on voit les chefs d'État qui arrivent. Ils étaient pas entendus, quoi. C'était hallucinant.
Non mais c'est
il y en a. Alors, et on s'en fout, quoi.
Je sais pas si vous avez vu ce petit, je crois que c'est notre ami Aïssa qui avait remis sur Facebook un petit texte qui était sympa, une capture d'écran d'un fil Facebook. La personne disait ceci: j'ai regardé BFM TV toute la journée. à la fin de la journée, j'ai eu envie de fracasser mon voisin qui était musulman. Sauf que ma femme m'a raisonné et m'a rappelé que moi-même j'étais musulman. J'ai fini par éteindre la télé.
C'est un peu ça, oui. C'est ça. C'est-à-dire que à la fin de la journée, t'as juste envie de tuer tout le monde.
Il faut pas regarder ce genre de chaîne d'infos, surtout en continu.
Il faut surtout penser à croiser ses sources d'informations le plus, se renseigner par soi-même et pas juste se faire.
Bien sûr.
Pas qu'on nous impose une information. Il faut aller rechercher les sources derrière et comprendre aussi ce qui permet de rester libre, c'est justement de pouvoir continuer à rechercher ce qu'on a envie de rechercher, à écrire ce qu'on a envie d'écrire, tant que ça reste pas haineux ou raciste ou évidemment ce genre de choses.
Bien sûr.
Tant qu'on peut rester dans la satire tout en restant respectueux des personnes, hein, c'est pas.
Voilà, mais c'est ce qui serait bien, c'est qu'on remette au centre justement le respect des êtres humains, pas des.
Pas des idées ou des idéologies.
Des vidéos,
voilà.
Et je pense que ça aussi, il faudrait peut-être qu'on essaye de se l'appliquer aussi en tant que libriste, parce que c'est vrai que dans la communauté du libre, il y a des gens qui sont assez
très
communautaristes. Voilà, oui. Et qu'à un moment donné, ça va bien, quoi.
Ouais.
Il faut essayer d'être un peu plus ouvert d'esprit.
On va tous dans la même direction à la base. Donc,
donc voilà quoi.
Exactement, c'était des belles paroles.
Alors, je vous propose de clore le sujet. On va vous passer une petite musique, ou plutôt un ensemble de 7 petites musiques qui vont les unes aux autres. C'est notre ami Mathieu qui nous avait trouvé ça, rappelez-vous, ça, on l'avait passé lors de notre dernière émission. Ça s'appelle C418 et le titre, accrochez-vous bien, Long songs are for people who don't have time to make them shorter. Voilà, c'est sur Radio Girol et on parlera ensuite d'un sujet un peu plus léger. On reviendra sur le jeu vidéo parce que, comme vous le savez, nous on aime le jeu vidéo.
You're listening to the fucking Radio Girol.
Girol Radio Station. Et nous voilà de retour. Désolé, il y a eu encore
dernière
un peu...
partie.
Voilà, il y a encore un problème technique. J'ai encore oublié de mettre le fader à droite au lieu. Enfin, voilà, pas à gauche là, en l'occurrence. Donc vous avez entendu, il y a 67 secondes.
Mais
il y avait
on te pardonne parce que tu es encore papa pour la deuxième fois. Et c'est... Enfin, c'est
depuis 8 mois.
Oui, mais bon, c'est les premières années qui piquent.
Alors, on va parler jeux vidéo. Et vous savez que chez nous, à Girol, on adore le jeu vidéo.
Même au pluriel, hein, d'ailleurs.
Ouais. Les jeux vidéo, exact. C'est toi Gaël qui t'y colle encore, parce que c'est toi qui as fait quasiment l'émission aujourd'hui. Alors
Juste petite info que j'ai vu passer aujourd'hui, je sais plus d'ailleurs sur quel média, sur mon Twitter ou alors par newsletter sur email, je sais plus. Bref, il n'y a pas que Humble Indie Bundle dans la vie, il y en a d'autres aussi.
Il y a Bundle Star.
Voilà, qui fait aussi... qui promeut des petits studios indépendants, des jeux, et qui, notamment, là, pour le coup, des jeux qui tournent sous Linux également.
Alors, je connais bien Bundle Star, puisque je suis abonné à leur newsletter depuis pas mal de temps. C'est quand même relativement rare qu'ils proposent des jeux sous Linux, et là,
c'est
le cas.
L'occasion, et pour le prix du, un demi en happy hour, enfin, voilà. Non, parce qu'ils disaient c'est pour le prix d'un café, mais je sais pas où est-ce qu'ils le payent, leur café à 2 euros passé, mais...
à Paris.
À Starbucks, ouais.
C'est à cause du cours du dollar.
À Paris. Ouais, à l'Élysée, voilà. Carrément.
Donc, voilà, on peut aller voir sur le site de Bundle Star. C'est le Abstract Bundle, pour le coup. Et pour, je crois que ça fait en euros, ça fait 2,61 €, je crois, quelque chose comme ça. On a 10 jeux. C'est quand même, c'est donné, 26 centimes le jeu, c'est pas mal.
Alors, sachant que le principe n'est pas le même que sur Humble Bundle, dont on parle souvent ici à Radio Girol, le principe de Humble Bundle, je vous le rappelle, c'est de donner la somme que vous voulez pour obtenir des jeux. Si vous donnez plus que la moyenne des dons, dans ce cas-là, vous avez des jeux supplémentaires.
Et on peut choisir aussi comment sont répartis les sous qu'on a donnés.
Voilà, entre les gens qui font la société Humble Bundle, les développeurs des jeux et deux œuvres de charité, voire trois en général. Voilà. Et là, on paye juste avec Bundle Star, on paye 2 euros, comme tu dis, à peu près 60, et on a 10 jeux. Et Mathieu, tu m'as parlé d'un jeu qui t'intéresse particulièrement.
Alors, en fait, j'ai pris ce bundle, et dimanche après-midi, j'ai testé tous les jeux de ce bundle, en fait. Pendant plus ou moins longtemps.
Mais il a une vie, hein, sinon.
paraît-il. Et quel jeu ? Tu m'as parlé d'un jeu en antenne tout à l'heure.
On peut en parler vite fait dans l'ordre.
On peut en parler vite fait.
Alors, en fait, dans ce bundle, il y a Secrets of Raeticon, qui est une sorte d'aquaria, mais au lieu d'incarner une sirène, en fait, on est un oiseau. Ça se passe dans les airs.
Le jeu a été cité sur rue 89 par un article qui disait les 10 meilleurs jeux de cette année, de 2014, et il en faisait partie.
C'est juste pour Linux ou ça existera aussi pour Android ?
Celui-là est que pour... j'en ai pas entendu parler pour Android.
Bundle Star fait beaucoup de jeux sur Steam, vend des jeux sur Steam, donc en général c'est que pour ordinateur.
D'accord.
Il avait l'air... j'ai fait le premier niveau et tout ça, il avait l'air très sympa, comme un courrier. Tu
t'es fait un level 1 à l'ancienne.
Voilà.
En même temps, c'est vrai que...
Alors celui-ci bénéficie notamment d'une direction artistique assez surprenante et un univers graphique assez intéressant, d'après ce que j'en ai vu.
Ouais, c'est assez plat, au niveau des couleurs. Enfin, t'as pas de texture, c'est des grosses zones colorées. C'est un peu comme si c'était de la vieille 3D, mais très très bien fait, très coloré, très bien animé. Ça se contrôle très bien. J'ai bien aimé. Je pense que je continuerai à y jouer. Ouais. Ensuite, on a Megabyte Punch, qui pareil est très sympa graphiquement tout ça, qui est une sorte de Mega Man.
Donc c'est de la plateforme 2D.
Plateforme 2D, exactement. Ouais. Où on construit, on ramasse des pièces pour construire son robot. C'est un peu le même principe que Mega Man, où on amasse des pièces à chaque boss et tout ça. Sauf que là, on peut vraiment construire tout son robot, la tête, les jambes, les bras, ça. On peut changer absolument tout et chaque pièce a des particularités. Okay. Et ça aussi, ça c'est un des jeux auxquels j'ai passé le plus de temps.
Qui peut tourner sur des configs pas trop poussés.
Ça avait l'air d'être... il faut voir, c'est pas super exigeant graphiquement. Mais il faut quand même une petite. Enfin, je pense
pas. Alors, par contre, j'imagine que comme d'hab, il y en a beaucoup qui fonctionnent en 32 bits. Ou comment?
Alors, j'en ai aucune idée parce que le 32 bits, ça fait au moins 5 ans que j'ai abandonné. Quoi. Mmh.
Alors, il faut savoir que. Il me semble que la spécificité de BundleStar, c'est que les jeux sont délivrés sous forme de clés Steam. Donc, nous, il faut Steam.
C'est uniquement des clés Steam.
Donc, de toute façon, tu n'as plus à te soucier si c'est du 32 ou 64. Ça utilise les librairies incorporées.
Oui, mais j'aime bien savoir comment ça fonctionne. C'est...
oui, c'est ton côté libriste qui ressort.
Donc, ouais, tous les tests, je les ai faits sur Ubuntu 14.10 et sur carte graphique Nvidia. Donc, en dehors de ça, je ne pourrais pas donner plus d'indications.
D'accord. Ensuite, on avait, toi, tu as testé...
Velocity Box,
ouais, qui est super dur. Qui, je pense, est encore plus dur que Super Hexagon, qui est un peu le même style de jeu, mais en plus stressant, on va dire...
Ton ordinateur est mort au bout de 5 minutes parce que tu l'as explosé, c'est ça ?
Un peu ça, ouais. Mais j'ai vite abandonné parce que c'est moins prenant. Enfin, j'ai trouvé ça moins prenant que Super Hexagon. Parce que Super Hexagon, en s'entraînant, j'étais quand même réussi à finir le premier niveau et des choses comme ça. Alors que là, j'ai pas une assez bonne coordination pour arriver à avancer. Quoi.
Ensuite, il y avait Knight Pen and Paper.
Qui était assez marrant, ouais. C'est une sorte de. De simulation de jeu RPG, mais de table, où tu as ton maître du jeu qui est devant toi et qui t'expose les combats, enfin qui te raconte les combats et tout ça. Et tu as les combats en arrière-plan, tu les vois aussi, mais tu vois tes personnages qui sont assis sur une table. Le principe était assez rigolo, quoi. Dans un style Super NES, un peu.
Ouais, c'est ce qu'on voit. Alors, il y avait ensuite Great Permutator.
Alors celui-là était, c'est un jeu de puzzle style Amiga où tu dois diriger des caisses, tu dois dessiner des chemins pour diriger les caisses vers une sortie et ça devient de plus en plus complexe. Voilà.
C'est un peu comme Boxy, y a un type de jeu avec des boîtes où tu dois un peu du pushover mais version boîte.
Ouais, enfin là tu pousses pas les boîtes, tu dessines des rails pour les diriger.
D'accord. En fait. Voilà. Ensuite, nous avions Meltdown.
Meltdown, un jeu de shoot 'em up, style arcade, comme on pouvait trouver dans les années 80, mais mise au jour graphiquement. En fait.
Dans le style de Protector, Super Protector, Contra.
Plus en vue de dessus. En
fait. D'accord. Ouais. Ensuite, Pixel Junk Monster Ultimate.
Qui est un tower defense. En une sorte de vue trois quarts de côté, plus arcade, on va dire, qui était assez sympa, mais en tour defense, en fait, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Field Runners 2. Donc, je pense que je préfère jouer à celui-là, en fait.
Et ensuite, Pixel Junk Shooter.
Qui est un. Comme ils indiquent dans le titre, c'est un shoot 'em up où tu dois. Le principe est de récupérer des gens qui sont échoués sur une planète. Et le truc qui est sympa, c'est que l'environnement est indestructible. Et il y a toute une interaction entre l'eau et la lave qui fait que c'est un peu plus original qu'un shooter normal.
Ensuite, nous avons Pulsar.
Pulsar qui est comment on appelle ça ? Enfin, un shooter où tu diriges les deux sticks. Et donc un stick pour se déplacer, un stick pour tirer, et qui est composé essentiellement de formes géométriques.
Un peu comme Geometry Wars.
Un petit peu, ouais. Voilà.
Et ensuite le dernier, Vengeurs.
Vengeurs, qui est une adaptation sur Linux d'un vieux jeu de 98 qui est très bizarre, que j'ai trouvé très moche graphiquement, et qui est très spécial en fait, qui est la combinaison d'un jeu de voiture en vue de dessus et d'un RPG. J'ai pas du tout accroché, j'ai dû jouer 10-15 minutes et je me suis dit bon, ok, c'est pas pour moi. Quoi.
Donc tout ça c'est sur bundlestar.com. À noter que je les suis depuis à peu près un an et c'est le premier bundle où tous les jeux sont disponibles sous Linux, ouais. Donc c'est une bonne chose.
Les 10 jeux sont disponibles sur Linux.
Voilà, et pour exactement 2,57€. Voilà. Et par contre, les jeux ne sont pas disponibles au téléchargement si vous voulez les installer sans installer Steam, mais il faut Steam, c'est un client.
Et vu que c'était pas cher, eh ben je me suis pris un deuxième bundle en fait, qui est celui d'un un seul jeu Linux.
T'es trop une victime de la consommation.
Alors lequel jeu
C'est Little Racer Streets, qui est un jeu de voiture vu de dessus qui est très sympa. Et je l'ai pris un peu aussi dans l'espoir d'ajouter quelques jeux.
Dans l'utrice.
Windows, dans l'utrice, des jeux de voiture, en fait.
Alors, juste, ça, cool. Petite dernière question. À quoi jouez-vous sous Linux ? Gaël, quel est ton jeu en ce moment sous Linux ?
J'ai pas mal à Oli Oli. Une fois que j'ai pu le faire fonctionner, c'était cool.
Donc, t'as réussi, parce que la dernière
fois... Et puis que j'ai récupéré une manette, enfin, j'ai acheté du coup une manette Xbox 360, qui me fonctionnait nickel, du coup. Et ouais, il est dur, mais après, quand tu commences à maîtriser un peu les touches, ça va.
C'est quoi comme jeu ?
C'est un jeu de skate en 2D. 2D.
Un Tony Hawk en vue latérale.
Avec une bande son assez vraiment exceptionnelle. Avec un peu de dubstep, des choses comme ça. Mais...
Des trucs qui plaisent à Gaël.
Sinon, j'ai refait Half-Life Episode 1. Parce que ma sauvegarde avait planté, c'était au moment où Steam était en bêta. J'étais au milieu, donc du coup, je recommence, paf.
Il faudrait penser que je dois le finir, je suis à la fin et...
Oui, il se finit bien. J'ai dû regarder une ou deux vidéos pour certains passages quand même.
Je suis au moment où tu dois accrocher les mines au dos des espèces de grands tétrapodes là. C'est dur.
Et là, il me reste Lost Coast du coup à terminer, à faire du coup. Et j'ai Bastion qui, je pense, est bientôt à la fin.
Ah là, chapeau, parce que...
Il est long, ouais. Enfin, je pense, je suis pas sûr, en fait, mais... Enfin, vu comment ça se remplit, j'ai l'impression que j'en approche. Qui était pas mal dur aussi, quand même. J'ai pas mal alterné entre... J'ai jamais réussi à vraiment trouver si je préférais jouer à la manette ou au clavier souris à ce jeu.
Moi, j'ai du mal aussi, hein.
Du coup, je crois que je l'ai fait à la manette maintenant, mais dernièrement.
Bastion,
ouais.
Ah, mais je pense que c'est beaucoup mieux à la manette.
Le bouclier se gère vachement bien avec la manette, du coup, parce que le deuxième stick analogique te permet de contrôler finement le bouclier.
Et apparemment, j'avais dû remapper pas mal les touches aussi, mais parce que j'avais une autre manette à l'époque, et j'ai pas réussi depuis avec le contrôleur Xbox.
C'est un jeu qui est fait pour le pad de Xbox. En fait.
Ouais. Oui, il y a déjà, il est défini même dans les options. Les boutons, c'est.
Comme la plupart des jeux maintenant. Mm.
C'est dommage parce que, depuis que j'ai testé la DualShock 4 de chez Sony, j'ai jamais aimé les manettes Sony, mais la dernière qu'ils ont fait pour la PlayStation 4 est quand même relativement sympa.
Et du coup, par contre, il faut que je fasse la migration de disque dur parce que j'ai plus de place et du coup, j'ai eu un 2 Tera là. Il va falloir que je migre mon home dessus. Je sais pas encore comment je vais pratiquer l'opération. Je vais voir. Voilà.
Mathieu, à quoi tu joues en ce moment ?
Alors, à quoi je joue ? C'est pas un jeu Linux. C'est un jeu que je vais tourner avec Wine. Et c'est, j'ai repris ma partie de Dead Space.
Ah oui, c'est vrai que je t'ai vu jouer sur Steam à Dead Space.
Qui est très sympa, que je trouve très dur, mais que j'aime beaucoup. Hein. Et que je compte le terminer genre un jour. Plus récemment, j'ai terminé un jeu que je n'avais pas fini il y a plus de 20 ans, on va dire. Qui est Another World.
Et, chapeau aussi.
Et là, voilà. Je peux dire, voilà, j'ai fini Another World. C'est... un accomplissement.
Du coup, pour ceux qui n'avaient pas suivi, il y avait aussi, l'actualité jeux vidéo. Il y avait c'était Awesome Games Done Quickly. Comment ça s'appelle déjà ? Je me souviens jamais.
Ouais, je crois que c'est ça, Awesome Games Done Quickly.
Done Quickly ou un truc comme ça, ouais. Qui est pendant 3 jours. Bon, alors là, ça n'a pas grand rapport avec le livre, mais bon, il y a quand même pas mal d'abandonware, je pense, dans le tas. Des Castlevania, des choses comme ça. Qui sont, et c'est des performances, hein, les gens qui jouent sont sur des CRT, ils jouent sur des vues télé.
Le principe étant de faire des
de le faire le plus rapidement possible. Il y a des ils utilisent plein de glitches, des choses comme ça de bugs. Tu vois, par exemple, quand on va sortir de l'écran à un moment ou quand ça descend verticalement, tu vas rester en haut, ça va permettre que ils connaissent vraiment toutes les petites astuces des jeux pour.
C'était dans le cadre du.
C'est dans un cadre caritatif. Oui, exactement. Il y a des dons en direct, soit on peut acheter un bundle qui était en lien d'ailleurs sur Humble Indie Bundle. Et tous les sous évidemment vont du coup à cette association qui pour la recherche contre le cancer.
C'est vrai.
Et aux États-Unis par contre, mais bon, ça reste quand même. De toute façon, le cancer, hein, c'est mondial, donc il n'y a pas. peu importe qui va trouver le remède miracle. Et donc ça c'était assez marrant, j'en ai regardé quelques-uns, c'est assez une bonne ambiance, ça a l'air d'être...
En général, il y a des chaînes sur YouTube, notamment la TAS qui s'appelle Tool Assisted Super Play, qui permet de voir des gens réaliser des vidéos, finir Metroid en une heure sur Super NES avec l'aide de soit du coup les émulateurs et certaines fonctions cachées pour faire afficher ou pas certains plans, ou effectivement trouver des glitches. Et je crois que c'est sur No Life où il y a une petite émission qui parle de glitches, notamment j'en ai vu un fabuleux sur Metroid sur GameCube. Ou sur Wii, je sais plus, qui permettait avec un petit astuce, il fallait sauter au bon moment, au bon endroit, et on se retrouvait au début du jeu avec toutes les armes.
D'ailleurs, en parlant de GameCube, il faut toujours que j'essaye les derniers builds en fait, de Dolphin.
Alors, j'ai un collègue qui l'utilise, il joue à Mario Kart Wii, ça fonctionne.
Et c'est qui a été énormément amélioré ces derniers mois, en fait. Et surtout les performances sur Linux, donc c'est un truc que j'attends avec impatience, et bien sûr ça arrivera sur Lutris aussi.
Alors par contre, du coup, j'étais obligé de me créer un compte, enfin obligé, pas vraiment, mais si je voulais voir les commentaires, ce genre de choses sur Twitch, donc chose que je ne pratique pas particulièrement, je regardais pas beaucoup de vidéos de gens jouer ou quoi. Du coup là, bon, c'était un peu dans un format différent peut-être de d'habitude, mais est-ce que je sais pas du tout comment c'est utilisé du coup sur Linux. Est-ce que ça nécessite un client ou est-ce que c'est uniquement via le navigateur?
Je n'ai aucune idée.
Par exemple, diffuser sa partie en même temps.
Pour streamer, je pense qu'il faut utiliser un truc genre FFmpeg ou VLC. Avec une ligne de commande spéciale,
il est possible de maintenant, je sais pas où c'en est, mais Steam est en train d'inclure la fonctionnalité pour streamer et j'ai commencé à regarder des. Des vidéos de gens qui streamaient, qui jouent en streamant, c'est pas encore super stable.
Depuis Linux
Depuis Linux, ouais. Depuis SteamOS. D'accord. Depuis SteamOS.
Depuis Linux, ouais.
Bon, il est temps pour nous de se quitter parce que nous avons 19 minutes de retard.
Ou d'avance sur la prochaine.
Voilà, ou d'avance sur la prochaine. On se retrouve du coup dans un mois. Pour tout vous dire, on se retrouvera peut-être le 10 février. Le mardi 10, et on reparlera de trucs libres, peut-être de Firefox OS, de jeux vidéo et de tout ce qui s'ensuit. Pardon. On vous souhaite à tous une excellente soirée. Vous pouvez nous écouter sur www.girol.org où vous retrouverez l'ensemble de nos émissions qui sont à chaque fois enregistrées et disponibles sous forme de podcast. Et on vous dit à dans un mois.
Bonsoir.